Quand elle entra dans la chambre, il crut tout d'abord qu'il rêvait. Puis la réalité, ou le simple instinct de survie, reprit le dessus et il se mit à gémir, prier, supplier, avec un débit haché, incohérent, comme surgissant d'un puits sans fond d'irréalité. Il ne remarqua clairement qu'une chose, à savoir qu'elle portait une robe bleu sombre et un chapeau à ramages, exactement le genre de tenue dans laquelle il l'avait imaginée devant le tribunal de Denver. Elle avait le visage enflammé et ses yeux pétillaient de vie. Elle était aussi proche d'être jolie que Annie Wilkes pourrait jamais l'être. Et lorsqu'il essaya plus tard de se remémorer cette scène, il ne lui en revenait que deux images claires. Celle de ses joues colorées et celle de son chapeau à ramages. Dans quelques forteresses de lucidité encore intactes au fond de lui, Paul Sheldon puisa cette réflexion de bon sens. On dirait une veuve qui vient juste de se faire baiser après 10 ans d'abstinence. À la main, elle tenait un verre d'eau, un grand verre d'eau. « Buvez cela, » dit-elle en glissant une main encore fraîche à cause de la température extérieure derrière son cou, pour qu'il puisse se redresser et avaler sans s'étouffer. Il prit 3 gorgées rapides. Sur la plaine aride de sa langue, les pores se dilatèrent et protestèrent au brutal contact de l'eau dont une partie coula sur son menton et le t-shirt dont il était habillé. Elle retira le verre. Il poussa un vagissement de protestation, tendant ses mains tremblantes. « Non, dit-elle, non, Paul. Juste un peu à la fois. Sinon, vous allez vomir. » Au bout d'un instant, elle le laissa prendre 2 nouvelles gorgées. « Les trucs, » dit-il toussant. Il se suça les lèvres, puis se les lécha et se suça la langue. Il se rappelait vaguement avoir bu sa propre pisse, combien elle avait été salée et chaude. « Les gélules, j'ai mal. Je vous en prie. Annie, pour l'amour de Dieu, je vous en prie, aidez-moi. Ça fait tellement mal. »«
Je sais. Mais vous devez d'abord m'écouter. »
répondit-elle avec ce mélange de sévérité et de tendresse maternelle dans le regard qu'il connaissait déjà. « J'ai été obligé de m'éloigner et de réfléchir. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'espère que j'ai bien réfléchi. Je n'étais pas tout à fait sûr. Mes idées sont parfois confuses, je le sais, je l'accepte. C'est pour cela que je ne me souvenais pas où j'étais toutes ces fois où ils me l'ont demandé. Alors j'ai prié. Il y a un Dieu, vous le savez, et il répond aux prières. Il le fait toujours. J'ai donc prié. Je lui ai dit, « Mon Dieu, Paul Sheldon sera peut-être mort à mon retour. » Mais Dieu m'a répondu, « Non, il ne le sera pas. Je l'ai épargné pour que tu puisses lui montrer la bonne voie. » Elle prononça « montrer » bizarrement. Mais c'est à peine si l'écrivain l'écoutait. Il ne quittait pas le verre d'eau des yeux. Elle le laissa prendre encore 3 gorgées. Il avala goulûment comme boit un cheval, rota, puis cria, secoué de crampes. Pendant tout ce temps, elle le regarda avec bonté. « Je vais vous donner votre médicament et vous soulager de vos douleurs, » dit-elle. « Mais j'ai tout d'abord un travail à faire. Je reviens tout de suite. » Elle se leva et se dirigea vers la porte.
« Non !»
hurla-t-il. Elle n'y prêta aucune attention. Il resta, gisant dans son lit, enroulé dans un cocon de douleur, essayant de ne pas gémir, mais incapable de se retenir. Il crut tout d'abord qu'il était en train de délirer. Ce qu'il voyait était trop bizarre pour être la réalité. Annie venait de revenir dans la chambre, poussant devant elle un grill à charbon. « J'ai affreusement mal, Annie. Des larmes lui coulaient le long des pommettes. « Je sais, mon cher. » Elle l'embrassa sur la joue, un baiser aussi léger que le contact d'une plume. « Bientôt. » Elle le laissa, et il regarda d'un œil rond le grill, une espèce de barbecue bon pour l'extérieur, qui se dressait maintenant dans la pièce, évoquant de tenaces images d'idoles et de sacrifices. Et c'était bien un sacrifice qu'elle avait en tête, évidemment. Quand elle revint, elle tenait le manuscrit de Fast Cars à la main. Tout ce qui restait de 2 années de travail tenait dans cette main. Dans l'autre, il vit une boîte de grosses allumettes en bois, Diamond Blue Tips. « Non, » dit-il en pleurs agités de tremblement. Une idée lui broya l'esprit, le brûla comme une projection d'acide. Pour moins de $100, il aurait pu faire photocopier le manuscrit à Boulder. Tout le monde, Brice, ses 2 ex-épouses, bon sang, même sa mère, lui avait toujours dit qu'il était cinglé de ne pas tirer et mettre de côté au moins une copie de son travail. Après tout, le Boulderado pouvait flamber comme son duplex de New York. Il pouvait être victime d'une tornade, d'une inondation ou de quelque autre catastrophe naturelle. Il avait constamment refusé, sans motif rationnel. Simplement, il avait peur qu'en tirer une copie lui portât malheur. Eh bien, le malheur et la catastrophe naturelle étaient arrivés dans le même paquet. Il avait en face de lui l'ouragan Annie. Dans son innocence, il ne lui était manifestement pas venu à l'esprit qu'il pût exister ailleurs un autre exemplaire de Fast Cars. Et s'il avait simplement écouté ce qu'on lui disait, s'il avait investi 100 foutus dollars... « Si, » répliqua-t-elle en lui tendant les allumettes. Tapée sur un beau papier blanc à mermel band, la page de titre sur le dessus, le manuscrit était sur ses genoux. L'expression d'Annie avait conservé sa clarté et sa luminosité. « Non, » répéta-t-il, détournant d'elle son visage brûlant. « Si, c'est plein d'ordures. Et de toute façon, c'est un mauvais livre. Vous êtes autant capable de faire la différence entre un bon et un mauvais livre qu'un aveugle de distinguer le bleu et le vert, » s'exclama-t-il, se fichant de ses réactions. Elle rit doucement. Apparemment, son mauvais caractère avait pris des vacances. Connaissant Annie Wilkes, se dit Paul, il pouvait cependant débarquer au moment le plus inattendu avec armes et bagages. Vous ne pouvez pas supporter de rester loin. Comment vous vous en sortez ? Tout d'abord, répondit-elle, je ne suis ni aveugle ni daltonienne. Et quand quelque chose est bien, je le reconnais tout de suite. Vous, Paul, vous êtes bon. Vous avez simplement besoin d'un petit coup de main. Et maintenant, prenez ces allumettes. » Avec raideur, il secoua la tête. « Non. Si ? Non. Si ? Non, bon Dieu ! Bon Dieu de Dieu, non ! Jurez tant que vous voudrez. J'ai déjà tout entendu. Je ne le ferai pas. » Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, elle tenait un petit rectangle de carton sur lequel, en lettres bleues brillantes, était écrit le mot « Novril ». On lisait juste en dessous « Échantillon, ne pas administrer sans prescription médicale ». Encore en dessous, il voyait 4 capsules dans leur emballage hermétique. Il lança la main. Elle mit le carton hors de sa portée. « Quand vous l'aurez brûlé, » dit-elle, « alors je vous donnerai les gélules. Toutes les 4, je crois. Et la douleur s'en ira. Vous retrouverez votre sérénité, et quand vous aurez repris le contrôle de vous-même, je changerai le lit. Je vois que vous l'avez mouillé, et ce ne doit pas être très confortable. » Et je vous changerai aussi, vous. À ce moment-là, vous aurez faim et je vous donnerai de la soupe. Peut-être même une rôtie sans beurre. Mais tant que vous ne l'aurez pas brûlée, je ne pourrai rien faire. Je suis désolé, Paul. » Sa langue voulait dire « Oui, oui, d'accord. » Et il se la mordit. Il se détourna de nouveau d'elle pour s'éloigner de la tentation de ce rectangle de carton qui le rendait fou, des gélules blanches dans leur encapsulage oblong, transparent, qu'un coup d'ongle suffirait à faire éclater. « Vous êtes le démon » grondait-il. Il s'attendit une fois de plus à de la fureur et n'eut à la place qu'un rire indulgent, teinté d'un peu de tristesse. « Oh, oui, oui, c'est ce que pense un enfant lorsque sa maman vient dans la cuisine et le trouve en train de jouer avec les produits ménagers sous l'évier. Il ne l'exprime pas de cette manière, bien sûr, car il n'a pas reçu votre éducation. Il dit simplement « Maman, tu es méchante ». De la main, elle repoussa les cheveux de Paul qui pendaient sur son front brûlant. Les doigts glissèrent le long de sa joue puis de son cou avant d'aller serrer brièvement son épaule avec compassion et de se retirer. Une mère se sent malheureuse quand son enfant lui dit qu'elle est méchante ou qu'il pleure lorsqu'on lui enlève ce qu'il avait pris, comme vous pleurez maintenant. Mais elle sait qu'elle a raison. Et elle fait donc son devoir, comme je fais le mien. Trois coups rapides, des sons étouffés, lorsqu'Annie frappa le manuscrit de l'articulation du doigt. Là-dedans, 190 000 mots et 5 existences qui avaient énormément compté pour un Paul Sheldon, libre et se sentant bien. 190 000 mots et 5 existences qui lui paraissaient perdre de leur importance à chaque seconde qui passait. Les gélules. Il lui fallait ces foutues gélules. Ses existences étaient des ombres. Les gélules, non. Elles étaient bien réelles. Paul ? Non ! Fit-il dans un sanglot. Léger bruit de frottement des gélules dans leur cocon de plastique. Silence. Puis, frottement boisé des allumettes dans leur boîte. Paul ? Non ! J'attends, Paul. Oh, pourquoi, nom du ciel, me faites-vous un tel chantage à la con ? Qui essayez-vous d'impressionner, pour l'amour du ciel ? Vous croyez-vous dans un film ou à la télé ? Attendez-vous d'être noté et applaudi par un public pour votre courage ? Tu peux faire ce qu'elle veut ou tu peux tenir le coup. Si tu résistes, tu mourras. De toute façon, elle brûlera le manuscrit. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Mourir ici à petit feu et souffrir pour un livre dont le tirage n'atteindra jamais la moitié de celui du dernier Misery et sur lequel chiera Peter Prescott de sa manière délicatement élégante quand il en fera le compte-rendu pour ce grand oracle littéraire Newsweek ? Allons. Allons, un peu de sagesse. Même Galilée a fait machine arrière quand il a compris que les gars en face de lui ne plaisantaient pas. J'attends toujours, Paul. Je peux attendre toute la journée. Par ailleurs, quelque chose me dit que vous pourriez tomber dans le coma avant peu. Vous me paraissez déjà dans un état pré-comateux et j'ai beaucoup de choses à... Sa voix devint un ronronnement qui s'éloignait. « D'accord. Donnez-moi les allumettes. Donnez-moi une lampe à souder. Donnez-moi un B-52 et un chargement de napalm. Je lâcherai dessus une bombe atomique tactique, si c'est ce que vous voulez, espèce de vieille salope de sorcière. » Ainsi parlait l'opportuniste, celui qui voulait survivre. Il y avait cependant une autre partie de lui-même, proche du coma, à la dérive, qui gémissait dans les ténèbres. 190 000 mots, 5 existences. Et ce qui était l'ultime protestation,
La vérité. Qu'est-ce que tu sais au juste de la putain de vérité ?
Le lit grinça quand elle se leva.
Eh bien, vous êtes un petit garçon entêté, je dois dire. Et je ne peux pas rester assise toute la nuit sur le bord de votre lit, même si cela me ferait plaisir. Après tout, j'ai conduit pendant une heure. Je me suis pressé pour revenir ici. Je reviendrai voir dans un moment si vous avez changé.
Alors brûlez-le vous-même, cria-t-il.
Elle se tourna et le regarda. Non, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, quand bien même je le voudrais, et même si je souhaite vous épargner toutes ces souffrances. Et pourquoi ? Parce que c'est vous qui devez décider librement de le faire.
Il se mit alors à rire. Et le visage d'Annie s'assombrit pour la première fois depuis son retour. Le manuscrit sous le bras, elle quitta la chambre.